Trainville PM. La voie est libre.
The garbage in the Philippines. We are looking forward to having a solution because this is a situation that is unacceptable and has gone on for far too long.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Justin Trudeau qui parlait de la crise des vidanges.
La crise des vidanges.
La crise des vidanges entre le Canada puis les Philippines.
Les Philippines, c'est quand même incroyable. C'est en 2013. D'abord, ça met sur la table une question, moi, qui m'a toujours intrigué. Ça fait à peu près 25 ans qu'on est tous équipés de bacs bleus, puis qu'on met des choses pour le recyclage, puis du carton, du papier, du plastique, tout ça.
Oui.
Mais est-ce que c'est vraiment recyclé? Et si oui, où et par qui?
Okay. Quel est le pourcentage qui l'est? Là? On sait bien que des fois...
9%.
De quoi 9%?
9% de ce que tu as mis dans tes bacs bleus sont...
Ça dépend des matières,
Luc Lavoie. Excuse-moi. Non, je vais être plus précis. Je vais être plus précis. Là. C'est 9% qui est fait au Canada. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi.
Ah,
c'est
OK. Pas parce que, consomme beaucoup de « made in China ».
Voilà.
OK. Non, alors, mais dans l'ensemble, il y a certains produits pour lesquels c'est beaucoup plus que ça. J'ai reçu un courriel il y a quelques semaines de ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains produits... Actuellement, on a vraiment beaucoup de difficultés à les recycler parce qu'il n'y a plus d'acheteurs.
Oui, bien, tu vois, l'affaire, c'est ça. C'est qu'il y a 25 ans, on a commencé à faire ça, puis tout le monde, y inclus moi-même, ça nous apparaissait plein de bon sens. Pourquoi couper des forêts entières quand on peut recycler le papier? Bon, tout ça. Okay? Mais il n'y a personne qui a semblé dire, oui, mais ça va où, puis qu'il recycle comment? Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité? Un marché international gigantesque, de conteneurs remplis de déchets qui s'en allaient en Chine principalement, la Chine a coupé l'entrée il y a 3 ans, je crois. Alors, à partir du moment où la Chine
les
a
prend
dit,
plus,
je les prends plus, là, je n'ai assez de mes propres vidanges, parce que la Chine, pourquoi la Chine les achetait? Parce qu'ils avaient développé des usines à recyclage qu'on n'avait pas fait ici. Et à un moment donné, ils ont dit, là, on n'a plus besoin. Alors là
on consomme assez chez nous.
Ouais, c'est ça. Hein? Alors, il s'est trouvé que dans ce domaine-là des déchets, et c'est bien connu, le crime organisé, la corruption, tout ce que tu veux est là-dedans. Alors là, t'as un entrepreneur canadien dont la compagnie a fait faillite depuis, qui a vendu aux Philippines 103 conteneurs qui devaient être tous du plastique parce que près de Manille, il y a une usine pour transformer les choses, pour transformer le plastique. Et quand c'est arrivé sur les lieux, ils ont ouvert ça puis ils se sont rendus compte que, oh boy, il était loin d'avoir juste du plastique dans cette affaire-là. Des bouteilles, des sacs en plastique, oui, des journaux, des couches pour adultes souillées, des déchets domestiques. Et là, il y a 103 conteneurs qui sont à peu près moitié-moitié dans les deux grands ports des Philippines, Subic Bay et Manille. Ils attendent là depuis 2014.
Ça doit sentir bon là-dedans?
Ça sent drôlement bon. Et là, tu as un président qui s'appelle Rodrigo Duterte, qui est le populiste le plus capoté, disons, pire encore que Bolsonaro du Brésil. Et lui, à un moment donné,
vraiment capoté, Duterte.
Ah non,
il a déjà tué quelqu'un, lui-là. Tout le monde sait ça. Là.
Plusieurs personnes.
Ouais, mettons, je suis conservateur.
Oui, il a dit lui-même, il était fier d'en avoir tué plusieurs. Il est contre les narcotrafiquants. Mais moi, j'avais réalisé, Bernard, je ne pouvais pas faire de la caricature, mais à tous les 2 semaines, j'ai une femme de ménage qui vient chez nous. Elle est philippine. Elle retourne chez elle aux Philippines une fois par année. Mm-hmm. Très attachée à son pays. Très sympathique, madame, dans la cinquantaine. Alors moi, au début de Duterte, je me disais, on est fou, le peuple là-bas, comment ils font pour vivre avec un pareil malade? J'ai dit, pas découvert. Qui est super populaire avec les classes populaires, Duterte. Et c'est comme ça qu'il a craqué la population contre le Canada. Il s'est mis à tenir des discours à l'emporte-pièce. Le Canada n'a aucun respect pour notre pays, ne nous prend pas au sérieux. Les Philippins sont gravement insultés par le fait que le Canada considère ce pays comme une décharge. Et patati et patata. Et là, le ton a monté. Puis lui, il y avait des élections législatives en même temps. Ça le servait, là, les gens.
Mais voyons
écoute,
donc.
C'est devenu un mouvement populaire.
Il a gagné des élections en parlant des vidanges du Canada.
Entre autres, oui. Entre autres, oui.
Des couches souillées du Canada.
Oui, oui, oui.
Des couches de CHSLD.
Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de symbolique, parce que j'en ai reparlé à ma femme de ménage. C'est nous autres, on est un pays en voie de développement. On a un rythme de croissance économique, les Philippines, remarquable dans les 5, 6, 7 % par année, un peu comme cette zone-là du monde. Puis c'est fini le temps où vous allez venir jeter vos vidanges sur nous autres. C'est fini cette époque où vous allez nous traiter comme un site d'enfouissement planétaire. Alors lui, Duterte, qui a clairement un sens de servir de ces affaires-là, a monté la population, puis là, il a posé des gestes concrets. Il a rappelé son ambassadeur, puis les 15 consuls qu'il y avait au Canada. Il a fait toutes sortes de
Il a fait de la politique avec ça.
Ah oui, puis beaucoup. Et là, il est arrivé au point où il a dit, bon, le Canada, vous entendiez Trudeau, eh bien, nous allons trouver une solution. Lui, il disait, non, la solution, c'est maintenant tu prends les 103 conteneurs de cochonnerie, puis tu les amènes chez vous, OK? C'est-tu clair? Chez vous. Et là,
donc, ouais, on s'est retrouvé en crise diplomatique.
Terrible. Une très, très grande crise.
Parce que moi, j'ai vu ça passer dans l'actualité, puis c'est pour ça qu'on s'est entendu pour que tu en parles, parce que je connaissais pas vraiment le fond de l'histoire.
Et ce Duterte, lui, il a dit, écoute, il taponne au Canada. Ah oui? Alors, moi, je vais donner un contrat, moi, Duterte, à une entreprise privée qui va y ramener.
Puis vous allez payer.
Vous allez payer, puis pas juste ça. Si vous voulez pas y laisser rentrer dans la zone souveraine, là, les 12 000 marins souverains, là, moi, je vais approcher le bateau, m'a collé sur la zone de 12 000 en plein là, puis m'a le laissé dériver. Je suis prêt à payer le prix du bateau, puis à le perdre. Vous allez vous en souvenir que vous êtes venu décharger sur nous, Philippins, vos cochonneries.
Vos maudites vidanges.
Vos vidanges, vos cochonneries, vos cochonniers. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il a monté ça.
C'est un peu gênant. J'ai des auditeurs qui m'écrivent justement, qui disent c'est honteux pour le Canada.
C'est très, très honteux. C'est très, très, très honteux. Et il faut que ça cesse. Maintenant... C'est pourquoi tantôt j'ai ouvert en parlant de la question plus large du recyclage de ce qui est dans nos bacs bleus et tout ça. Parce que au fond, on s'est jamais posé la question. En as-tu vu souvent, non, Bernard, des usines de recyclage? J'en vois pas, moi, des usines de recyclage.
Il y en a, mais
il n'y en a pas beaucoup. On est obligé d'exporter.
Il y en a pas assez. Mais oui, mais Luc, tu l'as dit, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on exportait beaucoup en Chine. Et à un moment donné, le marché chinois s'est refermé. Et je pense que c'est-tu dans le carton? Le carton, on a comme beaucoup trop de carton, on ne sait plus quoi faire avec.
Ah non. Alors, tu vois, c'est honteux que le Canada ait fait ça, mais sachez que ça se fait. Ça se fait pas seulement aux Philippines. Allez dans les pays corrompus le moindrement, dans l'Asie, dans l'Amérique latine, vous allez voir qu'il y en arrive, des vidanges, comme par hasard.
Mais là, c'est-tu quoi?
La mafia new-yorkaise, il y a à peu près une quinzaine d'années, là, ils se sont fait prendre. Eux autres, ils avaient créé une compagnie, puis ils prenaient ce qu'on appelle les déchets médicaux. C'est-à-dire ce qui sort des salles de chirurgie.
Ils revendaient ça aux pays en voie de développement?
Ben non, ils disaient, nous autres, on s'en occupe, on recycle. Puis il embarquait ça dans des bateaux, puis il allait pitcher ça dans des pays en voie de développement.
Des seringues souillées, puis tout le reste.
Tout le reste, oui. Des organes qui ont été retirés.
Vive la mondialisation.
Hein? Enfin, dans ce domaine-là, c'est très gênant. Duterte s'en est servi au maximum. Il déteste Trudeau, parce que Trudeau avait été faire des remontrances aux Philippines lors d'un sommet d'Asie-Pacifique sur les droits de l'homme, puis il avait dit qu'il était un lightweight, puis un petit rien du tout.
Duterte l'a jamais pris.
Puis depuis ce temps-là, il porte pas dans son cœur.
Mais tu sais, le Canada, ça peut être un bon punching bag. Là,
c'est-tu drôle,
Bernard? T'es aux Philippines. T'es philippin, tu vas pas attaquer les Américains. On s'entend?
Non.
Mais le Canada, qu'est-ce qu'ils vont faire?
C'est justement ce qui, à mon avis, est en train de démontrer à quel point la politique étrangère de Trudeau a pas fonctionné. Le Canada, tu viens de le dire, dans sa diplomatie, doit se mettre en position de ne pas être le punching bag par lequel on donne des claques sur la gueule aux États-Unis. Et c'est là qu'on est rendu. On a les Philippines contre nous, l'Arabie Saoudite contre nous, on a la Turquie contre nous, on a la Chine contre nous. Alors, à un moment donné, là, c'est drôle, ça. Moi, dans le temps que je vivais à Ottawa, là, puis que j'étais là-dedans, il n'y avait pas de ce genre de crise qui explosait à droite puis à gauche. On gère nos affaires, pas en disant dans le micro, écoutez, on va prendre les mesures qui vont être appropriées pour tous. C'est devenu une crise nationale aux Philippines. Et je pense
Ils sont en route, là?
Ça devrait s'en venir. Il a annoncé ça hier, Duterte, qui allait affréter lui-même un bateau, puis qui allait envoyer ça jusqu'au Canada.
J'ai hâte de voir ça. Ça va faire de la bonne TV quand ils vont envoyer
ça. Hein? C'est honteux.
Sortez vos masques. OK, on s'arrête. Au retour, Trump. Oh.
Et la destitution, on ne le sait pas.
Oui, surtout les démocrates ne le savent plus.
Drainville PM. La voix est libre.
This president is obstructing justice. And he's engaged in a cover-up. And that could be an impeachable offense.
I don't do cover-ups. You people know that probably better than anybody.
Voici Luc Lavoie.
Alors, la leader démocrate Nancy Pelosi et Trump, Pelosi qui dit ce gars-là...
Il a fait obstruction à la justice, puis c'est une offense qui pourrait mener à la destitution.
Et lui, il dit, moi, je fais pas ça, les cover-up. Comment on dirait, traduirait ça en français, un cover-up?
Une tentative de cacher, de dissimuler. Peu importe.
Alors, le yob est aux vaches.
Le yob est aux vaches parce que Nancy Pelosi... Bon, rappelons aux gens là, qu'il y a eu les élections de mi-mandat l'automne dernier puis que les républicains ont perdu la majorité à la Chambre des représentants, en fait. Les démocrates ont une solide majorité maintenant à la Chambre des représentants, tandis que les républicains ont gardé le contrôle du Sénat où il n'y avait qu'un tiers des sièges qui étaient en jeu. Alors, ça fait quoi, ça? C'est quoi récupérer la Chambre des représentants? C'est que, soudainement, la Chambre des représentants étant entre les mains des démocrates, ils peuvent utiliser leur pouvoir de subpoena pour forcer des documents à leur être transmis, pour forcer des individus comme Bill Barr, le ministre de la Justice, des individus comme Robert Mueller, l'auteur du rapport, des individus comme McCann, qui était l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, à venir témoigner. Et là, la Maison-Blanche a décidé que non, c'est non à tout, non, 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 littéralement en ignorant la loi, en l'envoyant en l'air. Et la stratégie de Nancy Pelosi, c'était évident dès après l'élection de mi-mandat qu'elle n'avait pas envie de s'en aller dans le processus de destitution. Pour toutes sortes de raisons. Une d'entre elles étant que tu ne peux pas le mener à bien parce que les républicains, quand ça va arriver au Sénat, parce que le processus de destitution, c'est d'abord une mise en accusation par la Chambre des représentants, mm-hmm. qui est votée à la majorité simple, qui est ensuite envoyé au Sénat où se tient un procès en destitution présidé par le juge en chef de la Cour suprême.
Exact.
Et ça prend un vote des deux tiers des sénateurs pour que la destitution ait lieu. Or, ils les auront pas, les deux tiers. Alors Nancy Pelosi se dit, pourquoi j'embarquerai là-dedans qui va mener nulle part, premièrement?
C'est ça. Deuxièmement, si t'es sûr de perdre, t'embarques pas là-dedans. Mais ouais. Sauf qu'il y a de plus en plus de démocrates qui veulent qu'elle s'embarque là-dedans.
Et oui, puis Trump aussi. Trump est en train de... Venez me faire une destitution. Mais tu te dis, mais pourquoi ils feraient ça? D'abord, s'ils se mettent à jouer l'horloge,
oui.
Ça se pourrait que le processus ne soit pas terminé quand on va arriver à la prochaine élection présidentielle dans 16 mois, 17 mois. Hein? Ça se pourrait aussi que ça soit terminé en queue de poisson. Mais surtout, ça va permettre à Trump de répéter à sa gang, là, sa fameuse gang qui l'appuie aveuglément. Ça, vous voyez, là, ils ont essayé de faire un coup d'État pour me dégommer de la Maison-Blanche sur la base de conneries parce que Mueller n'a rien trouvé contre moi. Là, ils ont décidé de substituer.
Fait que se servir de ça pour mobiliser sa base.
Complètement.
Puis dans le fond, préparer la prochaine présidentielle.
Et c'est d'autant plus inquiétant que dans sa base se retrouvent plein de gens violents, des gens extrémistes, des ci, des ça, des ça. Ce qui peut... dans un scénario catastrophe mené à, je sais pas, moi, Trump est destitué ou est battu, puis sa gang décide que c'est pas acceptable, puis il y a quelque chose qui commence à ressembler à une guerre civile. C'est le danger qui surveille tout ce monde-là. Et là, hier, Trump, les démocrates ont dit, nous autres, on continue...
C'est gros, là, une guerre civile.
Ben, une guerre civile.
Je sais qu'il y a un paquet de républicains qui appuient Trump, qui sont des partisans des armes et qui ont beaucoup d'armes.
Guerre civile est un mot trop fort. J'ai peur à la violence systématique. J'ai peur qu'il y ait des assassinats, qu'il y ait des ci, des ça. J'ai peur de ça. Oui, je l'ai peur de ça. Parce qu'il y a une population tellement polarisée. Faut jamais oublier que si t'es en gang des républicains, t'entends pas les mêmes nouvelles que si t'es un démocrate. T'as carrément la même
nouvelle
rapportée.
C'est vrai qu'ils vivent de plus en plus dans deux univers parallèles. Ils s'informent pas au même endroit. Ils se parlent entre eux.
Ni un ni l'autre. Ni les démocrates ni les républicains ne vont s'informer. Ils ont tous une vision qui est absolument irréconciliable. Et en ce sens, qui va contre l'esprit même de la Constitution américaine,
ben,
qui était
démocratie.
De forcer... Non, mais l'idée des pères de la Constitution américaine, c'était de forcer les trois composantes du pouvoir, le judiciaire, le législatif puis l'exécutif, à constamment faire des compromis pour continuer à faire avancer les choses. C'était une constitution qui était conçue pour qu'il n'y ait pas d'espèce de dictateur à la Donald Trump qui prendrait le contrôle. Mais jamais on avait imaginé qu'un gars comme Trump à la Maison-Blanche déciderait que la loi n'existe plus. Subpoena, poubelle. Deuxième subpoena, poubelle. Et là, hier, il y avait une rencontre avec les démocrates. Chuck Schumer, qui est le leader des démocrates au Sénat, et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Il les reçoit à la Maison-Blanche dans le bureau ovale.
Ça a mal,
et le but était de s'entendre sur un chiffre quand même important, très important même, de dépenses en infrastructure. Puis il aurait dit, écoute, nous autres, on collabore, M. le Président. Trump leur a dit, si vous continuez à faire enquête sur moi, il n'y en aura pas de programme de
d'infrastructure. Quand on connaît l'état des infrastructures aux États-Unis...
C'est dramatique.
Ben oui, vraiment.
Alors... Trump a dit non, puis il a dit, allez-vous arrêter vos... Puis il a crié après eux autres, là.
Oui,
Allez-vous arrêter de faire vos enquêtes faunées, Mueller a démontré que j'ai rien fait de mal.
Il a pété sa coche.
Ça a duré 3 minutes, puis il a sacré dehors. Get out!
Imagine-toi!
C'est le président des États-Unis devant les deux leaders du Parti démocrate, dont une qui est présidente de la Chambre des représentants, qui, dans la ligne hiérarchique des États-Unis, protocolaire, est numéro 3 dans l'État. Après le juge en chef.
Non, c'est... Écoute, ils sont même plus capables de se parler.
Alors, je veux dire, revenons à l'idée du impeachment, de la destitution. C'est que les démocrates sont en train de plus avoir le choix. Plus ils les insultent, plus il y en a dans les jeunes qui sont arrivés, qui sont plus à gauche.
On ne peut pas tolérer ça.
On ne peut pas tolérer ça. Il faut le destituer. On a un devoir face à
l'histoire. Mais ils ne voient pas qu'ils n'ont pas les chiffres. Ils n'ont pas les sénateurs, Luc, c'est condamné à l'échec.
Oui, sauf que quand tu te mets dans une logique de bataille sans trop de stratégie, purement, là, c'est la charge de la brigade légère.
Je comprends, mais ils vont perdre.
Ils vont perdre.
Ils vont aider Trump.
Ben oui, puis Trump, il a vu, là. Il veut le processus.
Mais ça, ils ne sont pas capables de s'en apercevoir.
Mais là, s'il l'a compris, Schumer l'a compris, mais c'est tous les nouveaux qui sont rentrés là, qui disent, regarde, ils
veulent avoir raison plutôt que gagner. Il y a une certaine gauche, Luc, qui a toujours cru que c'était plus important d'avoir raison que de gagner.
Oui, c'est vrai, ça. Il y a une partie de ça qui explique ce qui se passe. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a des gens là qui font de la politique, des démocrates en Chambre des représentants. Ils viennent de se faire élire, puis pendant leurs élections, ils se sont fait traiter tous les noms de la terre. Ils se sont fait insulter par les républicains, crinqués par Trump. Ils se sont fait vomir dessus. Puis là, ils disent, ah ouais. Tu penses que je n'essaierai pas de le destituer? Tu payes-tu? Je vais tout faire pour le destituer. Puis on va y en tirer des subpoenas par la tête. Puis tôt ou tard, il va y avoir une réaction de la Cour suprême qui va dire, Monsieur le Président, tu ne peux pas faire ça. Mais à l'heure actuelle, on est dans une espèce de tigre. Pelosi, c'est la première fois qu'elle utilisait ce qu'on a entendu dans le début de notre conversation, à savoir...
Obstruction of justice. Ouais,
qui est impeachable, qu'elle a dit. Oui. Alors, c'est la première fois que... Parce qu'encore la semaine dernière, elle disait non, faut pas aller vers la destitution parce que c'est ça qu'il veut.
Mais là, son aile gauche la pousse.
La pousse tellement fort qu'elle n'est plus capable de dire non. Puis elle, Nancy Pelosi, une femme très intelligente, beaucoup, beaucoup d'expérience...
Mais perçu comme un...
Ben, c'est comme un has-been, un dinosaure. Ben, oui. Alors, si elle fait pas attention,
elle va se faire jumper.
C'est ça qu'on a. Puis Trump, il regarde ça, puis il continue de... Je dis, quel homme étrange. Je sais plus quoi dire.
Étrange, oui. Mais là, j'étais rarement... Oui, c'était rare.
J'ose plus, je sais plus quoi dire.
Je sais.
Le gars, là, il finit par la manœuvrer, la machine. Il faut reconnaître que le gars, dans sa folie, il y a une forme de génie.
Non, puis ce qui était anormal est en train de devenir normal.
Complètement.
Avec lui. Ce qui était inacceptable.
Puis mondialement.
Les
fake news partout.
L'attitude envers la Chine. Regarde comment c'est en train de déraper.
Ben oui, partout dans le monde.
Partout dans le monde.
Partout dans le monde.
Eh, bye-bye. OK. Hey. Comment t'as dit ça? Étrange.
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 À demain, mon cher.
Salut, Bernard.
Toi, t'es pas étrange.
Ah bon?
Non, toi, t'es...
Toi, t'es beau garçon.
Ah, t'es niaiseux. On devrait pas finir notre segment comme ça. Après la pause.